Je voudrais partager sur la foi ce matin. Je découvre une chose. Vous savez, à chaque fois, moi, je prêche dans l'église sur des séries. Je fais des séries de prédications. Et à chaque fois que j'étudie une série longtemps à l'avance, j'ai l'impression de me reconvertir, de découvrir une chose extraordinaire. Et c'est assez énorme pour moi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je ne sais pas si vous voyez le jeu de mots là, ou le jeu d'images. Ça vous fait penser à quoi ? Hein, à l'image qu'on a sur les, hein, l'oculiste. C'est celle. La foi est une démonstration des choses que physiquement on ne voit pas. La foi, ce que je vais partager ce matin, c'est une vision. C'est voir les choses invisibles. Et d'avoir une assurance dessus et de marcher suivant ce qu'on ne voit pas. Et ça va devenir, écoutez-moi bien, un style de vie. La foi n'est pas simplement à vivre dans un moment de prière. On veut avoir la foi, on est devant une montagne, puis là on prie, puis on sort du moment de prière et on vit par la vue. Dieu veut nous apprendre à vivre toute notre vie par la foi. Le moment de prière, oui, est l'aboutissement de toute une vie par la foi. Logiquement, on devrait venir dans un moment de prière en ayant vécu tous les domaines de notre vie par la foi. Et quand on vient, on dit, ce que j'ai vu là, la vision que j'ai dans ma vie, je viens prier pour dire, au nom de Jésus maintenant, ce que je vois dans l'invisible, je veux le voir se réaliser devant Dieu. Dieu nous appelle à vivre la foi comme un mode et comme un style de vie. Si nous vivons la foi comme un style de vie, et que nous l'intégrons dans tous les domaines de notre vie, vivre avec une vision, avoir les yeux ouverts sur les choses invisibles. Si tes yeux sont ouverts sur les choses visibles n'auront pas d'incidence sur toi, mais tu vas transformer les choses visibles à l'image des choses invisibles que tu vois. Vous me suivez là? La foi est une vision, est une capacité dans l'esprit de voir. Si tes yeux sont ouverts sur les choses invisibles, eh bien, tu vas voir que ça change tout. Quelqu'un qui a une vision, ça se voit. Quelqu'un qui voit dans l'invisible, ça se voit, sa démarche n'est pas la même. Son langage n'est pas le même. Ses attitudes ne sont pas les mêmes. Pourquoi ? Parce qu'il voit les choses invisibles. Et si nous intégrons le principe de foi dans tous les domaines de notre vie, vous savez quoi ? On va révolutionner notre monde, là où Dieu nous a placés. Notre famille, notre équipe, notre couple, là où nous travaillons, partout. Pourquoi ? Parce que nous avons une vision des choses que Dieu veut faire, comme il veut le faire, à la dimension qu'il veut les faire. Et cette vision devient un impact sur l'environnement dans lequel nous sommes. À la mode de Dieu, je veux vivre à la mode de Dieu. La foi est un mode de vie. Elle dépasse le domaine de la prière. Et je fais cette série, je vous propose de méditer Hébreux 11 et de le lire autrement. Vous savez, souvent on lit... Et puis on est là, on veut la foi pour la bénédiction. Et quand on lit Hébreux 11, à un moment donné on voit, par la foi ils vainquirent des royaumes, ils exercèrent la justice. Vous savez, la foi, quand on a la foi, ça ne concerne pas que le moment de la prière où on veut la bénédiction. C'est un style de vie qui fait qu'on exerce la justice autrement que quelqu'un qui n'a pas la foi. On triomphe des royaumes autrement que quelqu'un qui n'a pas la foi. On va au travail comme autrement que quelqu'un qui n'a pas la foi. On va avec une vision. On vit avec la vision des choses invisibles. Si tu ne vois pas les choses invisibles, tu vas au travail, mais tu n'es pas agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Si tu ne vis pas toute ta vie par la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est impossible. Dieu veut, il nous a créés avec la capacité de voir. Si tes yeux ne sont pas ouverts sur les choses invisibles, tu ne lui es pas agréable. Si tu viens adorer, écoutez-moi bien, si tu viens adorer que tu n'as pas la vision des choses invisibles, ça ne lui est pas agréable. Si tu ne vois pas, tu sais, il voit sa marche, tu sais, dans le sanctuaire. Il voit, leurs yeux sont ouverts. Quand Jésus dit à ses disciples, il dit, mais quelle image les gens ont de moi? Quelle vision les gens ont de moi? Oh, t'es un prophète, t'es ceci, t'es cela. D'accord? Un homme de bien. Mais il y en a un qui s'est levé, ses yeux se sont ouverts. Il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça. Tes yeux spirituels se sont ouverts. Tu as vu. Et ce moment-là de déclaration, c'est un moment d'adoration. Si tu ne vois pas, si tes yeux ne sont pas ouverts sur les choses invisibles, de qui est Dieu véritablement, qui est Jésus véritablement, ton adoration ne peut pas être agréable à Dieu. Oh, vous me suivez là? Caïn, il a offert une offrande sans vision, sans foi. Ça n'a pas été agréable à Dieu. Abel, il nous a dit, c'est par la foi qu'il a offert une offrande. Vous me suivez là? Ok? Il avait révélation de qui? Il avait déjà révélation de la croix, du sacrifice. Il offre un sacrifice. C'était agréable, pas parce qu'il était meilleur que son frère, mais parce qu'il le faisait par la foi. Parce qu'il avait une vision de la réalité de qui est Jésus. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. J'adore l'agneau. Comme dans l'Apocalypse, il était déjà en train d'adorer. Il avait la vision qu'un jour, bien, le Père enverrait le Fils. Et que par la foi dans le Fils, nous allons le droit de nous approcher de Dieu et de rendre un culte. À cause de cette vision, c'est agréable. Sans cette vision. Vous savez, on peut être dans le culte, il y a des gens, ils ont les mains levées, ils chantent, tout, juste, c'est pas par la foi. Il n'y a pas de vision. Puis il y en a un autre à côté, Caïn et Abel. C'est quelqu'un qui n'a pas la foi, qui ne voit pas les choses invisibles, il dit, mais quelle est la différence? Ils ont fait ça pour Dieu quand même. Hein, quand même. Il est gentil quand même. Oh, méchant, Seigneur, tu es méchant. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on est dans l'humain, on croit, on s'arrête aux choses visibles. Et notre propre justice peut dire, mais quand même, c'est dur. C'est dur. J'ai fait de tout mon cœur. J'ai travaillé, je offre. Mais il n'y a pas la vision. Et sans la vision de qui il est, sans la vision du chemin qu'il a créé, mais tu ne peux pas lui être agréable. Allô? Et à l'église, je dis souvent, si vous me suivez, secouez les mains comme ça. Et secouez les mains comme ça, s'il vous plaît. La Bible est un mode d'emploi de vie par la foi. Du coup, ça change tout. Quand je lis la Bible, vous savez quoi? Je suis en train de fréquenter des hommes de foi. Je fréquente des hommes. Je lis la Bible, en me disant, il y en a qui commencent à secouer les mains. Je lis la Bible, je lis l'histoire de David qui va s'en battre. Je suis là en train de dire, c'est un mode d'emploi de vie. Dieu nous dit, mon juste vivra par la foi. C'est pour savoir vivre par la foi, il faut que je lise la Bible en la lisant, en disant, c'est un mode d'emploi. Il y a des secrets, il y a des Dieu veut nous révéler comment vivre par la foi. Il y a des modèles. Alors, je suis là, je vois David qui se lève. Tu sais, régulièrement, je vois David qui se lève dans une sainte indignation. Oh là là, l'homme de foi est en train. Il voit Goliath, mais à la hauteur de Dieu, avec la vision de Dieu. Il dit, mais Goliath, c'est quoi? Et on votait sans la vraie vision, on va avoir une présomption de Dieu. Je vais aller devant Goliath, je vais lui dire machin. Mais quand dans la réalité de la vie, tu vis pas par la foi, t'as pas une vraie vision, Dieu t'a pas ouvert les yeux, le Goliath quand il s'avance, vous me suivez là? Mais quand tes yeux, alléluia, vous avez compris, hein? Mais quand tes yeux, dans ton culte personnel, voient les choses. Tu vis par la foi, tu sors de ton moment de prière, tu vois un Goliath, c'est pas juste dans le moment de prière, je lis, je délie, je relis, je redélie, je chasse. Et au moment où tu ouvres tes yeux physiques, tu vas pour t'avancer, le Goliath t'impressionne parce que t'as pas une vision spirituelle. Sans la foi, sans la vision comme Dieu voit, tu ne peux pas lui être agréable et tu n'auras aucun effet dans la réalité de ta vie. Dieu veut que tu vives par la foi pour que tous les domaines de ta vie soient mués par la foi, par une vision et que tu vois la montagne. Elle t'impressionne pas parce que tu la vois comme Dieu la voit, avec la vision que Dieu donne. Et ainsi, tu peux commander la montagne. Oh, toi là, au nom de Jésus, tu te jettes dans ta mère. Mais si tu crois dans ton cœur, ça veut dire, si ton cœur voit que déjà c'est jeté dans la mer, tu le verras s'accomplir. Tu es confronté dans des situations dans ton boulot, dans ta vie de tous les jours. Ton boulot, tes relations, tous les domaines de la vie peuvent se vivre par la foi, la capacité de voir les choses invisibles. Si tu les vois, ça fait toute la différence. Si tu vois les choses comme elles devraient être dans l'esprit et que tu marches sans te laisser perturber, tu te laisses pas perturber, les circonstances sont adverses, mais je vois, je garde les yeux sur ce qui est invisible, je garde mes yeux dessus, je lâche pas, tu verras s'accomplir. Un mode de vie. Alors je demande qu'un esprit de révélation vienne sur nous pour qu'il ouvre les yeux de notre cœur. C'est pour ça que Paul dit qu'il ouvre les yeux de notre cœur pour que nous fermions nos yeux physiques et puis nos yeux spirituels s'ouvrent et je vois la lumière, tu sais, je vois. Et il y a quelque chose qui s'illumine, je vois. Et si tes yeux restent fixés sur ce que tu vois dans l'invisible, tu vas transformer le visible. Alléluia. Alors l'analogie, rapidement, le Seigneur veut nous apprendre à vivre par la foi comme l'aigle apprend à ses petits à voler de leurs propres ailes. Vous connaissez l'histoire, elle est très connue. Philippe la raconte souvent, mais je l'aime beaucoup. Comment que l'aigle, la maman aigle apprend aux aiglons à voler? Quand on se convertit, on sort dans un nid très haut placé, il vient puis il nourrit. C'est la maman aigle qui nourrit. Oh, c'est bon. Ah, c'est bon là, tu sais, je suis dans le nid douillet, préparé. Oh, oh, encore, encore. C'est pour voir. Au bout d'un moment, l'animal grandit. Et l'aigle, maman aigle, veut apprendre aux aiglons à voler. Vous savez ce qu'elle fait? Vous savez ce que le Seigneur fait? Non, non. Il détruit le nid. Brandy par brandy. Et puis je vois les aiglons s'affoler. Oh, maman, qu'est-ce que tu fais? Attends, vas-y, explique-moi là l'épreuve de la foi. Considérez comme un sujet de joie parfaite. Toutes les épreuves auxquelles vous pouvez être confronté. Le Seigneur veut nous donner de vivre par la foi et nous, on est là, dans l'église, en confort. Petit, prends soin de moi, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Non, 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 je veux t'apprendre à aller chercher toi-même la nourriture. Vous m'avez suivi là? Alors, la maman aigle, elle détruit le nid. Brandy par brandy. Et les enfants, vous savez... Non, mais je veux pas y aller, je sais pas ce que tu fais, je comprends pas ce que tu fais. Oui, c'est l'épreuve de la foi. Tu vas étendre les ailes de la foi, tu vas voler, tu vas entrer, tu vas te mettre à vivre par la foi. Dieu vit par la foi et il nous conduit à vivre par la foi. Vous savez, Dieu vit avec une vision. Oh oui. S'il nous demande de vivre par la foi, il vit par la foi. Avant de créer le monde, il a d'abord vu. Allô? Détruis le nid. Et puis... Le premier aiglon est parti. Ah! Ça descend, puis il oublie que l'aiglon oublie qu'elle a des ailes. Et à part la maman aigle descend, il dit, allez, il va y déployer les ailes, il va pas déployer les ailes. Seigneur, ne m'oublie pas, je vais prendre le sol. Hop! La maman aigle vient le récupérer et le remonter dans le nid. Et on recommence, et on recommence, et on recommence jusqu'à ce que, à un moment donné, l'aiglon, blac, il tend les ailes. Hey! J'ai les ailes de la foi. J'ai des ailes. Vous savez quoi? Les chrétiens oublient qu'ils ont des ailes. Ils veulent rester dans le nid. Tu oublies que tu as des ailes. Dieu t'a créé avec des ailes. Tu veux juste rester là et dire, Seigneur, bénis-moi pour voir à mes besoins selon ta richesse et avec gloire dans le nid. Pour voir mes besoins, mais moi je reste dans le nid. Je veux rester dans le nid. Oh, c'est doux. Oh, c'est douillet. Et l'épreuve de la foi. Il vient détruire le nid. Il dit, maintenant, il faut que tu sortes de là, que tu déploies les ailes. Et que la foi devienne pour toi comme un mode de vie, un style de vie. Et que tu rentres à la dimension de Dieu. Il dit, viens voler avec moi. Viens voler avec moi. Vous ne voulez pas voler avec lui, là? Viens voler avec moi. Je veux t'amener. Je ne veux pas juste aller chercher à manger et te le ramener. Non, je veux que tu sois avec moi. Et que tu apprennes toi-même à aller chercher la nourriture. À aller confronter les ennemis. Et puis, aller récupérer la nourriture dont tu as besoin. Alléluia. Oh, alléluia. J'accélère parce que là. Hébreux 10, 18. 10, 38 et 1. 1, 11, 1. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est comme un code. Vous savez, j'ai très peu eu de vision dans ma vie, mais j'en ai eu une un temps de jeûne où Dieu m'a montré la foi comme un code. Une valise fermée. Et là, c'est un code à 4 chiffres. Mais à l'époque, je l'avais vu à 3 chiffres. Et là, je l'ai transposé à 4 chiffres. Et quand... C'est comme une combinaison. Tu mets la vision, tu mets l'espérance, tu mets la ferme assurance, tu mets la démonstration, la valise s'ouvre. Vous savez, et ça ouvre la porte du ciel. Et on se met à vivre naturellement le surnaturel. Moi, ma prière, c'est pas juste être un superman des choses de l'esprit. Je veux vivre toute ma vie par la foi. Et qu'il y ait là cette combinaison qui se met en place. Ce matin, comme c'est une série, moi je vais juste prêcher la première. C'est les choses invisibles, la capacité de vision. Diapo suivante, tout ce qui existe, alors écoutez-moi bien, j'insiste pour que tout le monde se mette en mouvement et se mette à croire que Dieu veut nous conduire là. Tout ce qui existe a d'abord été créé dans l'invisible. Tout. L'invisible est plus réel que le visible. Tout ce que nous avons, vous savez, a d'abord été vu dans l'invisible. Écoutez-moi. Une voiture a d'abord été conçue, il y a d'abord eu une image, une vision, avant qu'elle soit là en réalité. Toujours. Cette veste extraordinaire que j'ai, ça a été un cadeau de Claude. Vous savez, mais même cette veste-là, elle a été vue dans l'invisible. Quelqu'un l'a d'abord pensé, a d'abord eu une image de ça avant que ça vienne à la réalité. Vous me suivez là? Un avion, une chaise, la chaise sur laquelle vous êtes, ça a été dessiné. Il y a eu une image avant que ça vienne à la réalité. Le monde qui a été créé a d'abord été vu en image. Dieu ne se met pas en mouvement en disant, tiens, on va improviser quelque chose. Oh, il fait toujours quelque chose. Il le pense, il le planifie, il le prédestine dès avant la fondation du monde. Ses plans sont dans le détail. Imaginez le tabernacle. On ne peut pas dire, oh, on va commencer le tabernacle, on va commencer. Non, l'image, Moïse a vu une image claire du tabernacle et il fallait la faire en fonction de l'image qu'il avait vue. Dieu fonctionne par la foi et il nous donne de tout ce que... Essayez d'imaginer, n'importe quoi que vous avez aujourd'hui a d'abord été vu en image. La montre là, dessinée, pensée. Et alors, du coup, pour changer quelque chose dans le visible, il faut d'abord qu'il le soit dans l'invisible. Si tu ne vois pas la chose que tu veux être changée, changée dans l'invisible, tu le vois, tu le subis, des circonstances, etc. Si dans ton esprit, dans ton cœur, tu n'as pas une vision de cela changer, tu ne le verras pas changer. Si tu veux que ça change dans le visible, il faut d'abord que tu en aies eu une vision changée selon le plan de Dieu dans l'invisible. Est-ce que vous me suivez là? Vous me suivez bien là? C'est important ce que je suis en train de... Sinon, qu'est-ce qui se passe? Je viens dans la prière, je viens devant Dieu, puis je suis là devant la montagne, puis je fais un exercice de piété qui n'a pas une vision. C'est pour ça que Jésus dit... Si tu crois dans ton cœur que ce que tu dis arrive, ça veut dire quoi? Si la vision que tu as de la montagne, tu la vois déjà déplacée, déjà transformée, ça te gêne pour avancer, il y a une montagne là, ça te gêne, tu veux pas avancer, oh, qu'est-ce que tu fais sur mon chemin toi? Oh, Dieu veut que je passe par là, qu'est-ce que tu fais là? Tu vois cette image, tu dis bon, c'est le plan de Dieu pour moi, il faut que tu te déplaces, allez, déplace-toi, dans ton esprit c'est déjà fait. Quand tu viens dans la prière, juste tu dis, au nom de Jésus, ce que j'ai déjà vu dans mon esprit. Si tu ne le vois pas déplacer, au moment où tu vas te confronter dans la réalité, tu n'auras pas la conviction et la force pour le déplacer. Vous me suivez là? Donc ça prend une vision, ça prend une conviction devant ta montagne, une conviction. Et vous savez, c'est ça le réma. Un réma, à un moment donné, une conviction monte, ça y est, c'est fait. La montagne est déplacée, c'est une image que j'éclaire. Souvent, on prie, mais on ne persévère pas jusqu'à ce que l'image soit claire des choses qu'on veut voir changer. C'est pas clair. Alors, on est là, et puis au nom de Jésus, on sort. Puis, tu sais, l'image n'est pas claire, il n'y a pas la conviction, il n'y a pas la conviction de Dieu au-dedans de nous. Une assurance, une détermination, c'est fait. Et je me lève de là, quand bien même je ne le vois pas encore déplacé, il y a une assurance au-dedans de moi. J'ai une image claire des choses déjà changées. J'ai une illustration de ça, c'est Anne. Anne, dans la Bible, elle prie. Tu sais, elle est mortifiée. Elle est stérile. Elle n'arrive pas à avoir d'enfant des années, des années, des années, des années. Et elle pleure devant Dieu. Elkana, il avait plusieurs femmes. Donc, Pénina, oh là là, elle a mortifié. Et puis un jour, elle a décidé de crier à Dieu. Elle prie, elle prie, elle prie, elle persévère. Tu sais, la conviction ne vient pas. Jusqu'au moment où Élie se met à lui dire, ok, je vous passe les détails. Dieu t'a exaucé. Vous savez, elle sort de là, ce n'est plus la même dame. Elle se lève, la Bible nous dit, son visage a changé. Son langage change. Et pour autant, elle n'a pas d'enfant. Suivez-moi là. Elle avait déjà son enfant. Elle se lève, elle l'avait déjà. Elle avait l'image de son enfant. Elle se voyait déjà en train de dorloter son enfant. Ah. Déjà, elle sort de là. Elle va manger. Alors qu'avant, elle n'avait pas le goût à manger. Allô, vous me suivez là? Elle n'avait pas le goût à manger. Eh bien, ça va manger. On va se régaler ce midi. Hey, mais attends, oh, qu'est-ce qui t'arrive? C'est Pénina qui lui dit, oh, tiens, c'est bizarre, c'est quelque chose qui a changé. Ben oui, tu sais quoi? J'ai déjà mon enfant. Oh! Tu ne me la feras pas à moi, ça.
t'as même pas couché encore avec notre mari. Donc, imaginez la situation. Elle se met à manger. Même si Pénina, non. Je vois mon bébé, j'ai déjà mon bébé, moi. Elle se met à manger. Alléluia. Je rends grâce à Dieu de ce que j'ai déjà mon bébé. Je vois mon bébé. Alléluia. Je vois mon bébé. Je rends grâce à Dieu par la foi, par la vision que j'ai déjà. Elle est formée dans mon esprit, cette vision. Personne ne l'entendra, parce que c'est au-dedans de moi et dans mon esprit. Oh, je le sais que je sais, je le sais que je sais, que Dieu m'a déjà exaucé. Ça change tout. Du coup, tu peux persévérer. Tu peux persévérer. C'est dur, tu attends. Tu sais, c'est comme dans Habakkuk 2. La vision, écris la vision. Écoute, si elle tarde, t'inquiète pas. Attends-la. Alors, vous savez quoi? Anne, elle est rentrée chez elle. Elle a fait l'amour avec son mari par la foi. Elle a fait l'amour avec son mari avec la vision que le bébé vient. Le bébé n'était pas là, je vous dis. Il n'était pas là. Mais dans son esprit, elle voyait déjà son bébé. Ça fait toute la différence. Ce n'est pas un moment de prière, là. Quand elle fait l'amour, elle n'est pas... Vous me suivez, là? Hein? Elle vit par la foi. Elle vit toute sa vie par la foi. Son vie de couple, sa vie avec les enfants. Mais ça peut s'appliquer à tous les domaines de sa vie. Si tu n'as pas une image claire des choses que tu vois changer, si ça n'a pas une conviction dedans de toi, tu ne le verras pas s'accomplir. Ça va juste être un accident. Dieu, à un moment donné, dit, écoute, il est tellement... Tu sais, je vais venir le chercher, là. Vous, tu sais. Il n'a pas déployé les ailes de la foi. Vivre par la foi, c'est agir dans le présent en fonction d'une perception de l'avenir. C'est-à-dire, tu agis aujourd'hui comme si tu avais déjà l'image que tu vois. Ça change tout. Tu sors pas de la moment de prière en disant « J'espère que le Seigneur va m'exaucer. » Non. Ce que tu dis, c'est « Le Seigneur m'a déjà exaucé. » Ça change tout. Tu dis pas « J'espère. » Vous savez, souvent, on sort d'un moment de prière, on a combattu « Au nom de Jésus !» Et puis, « Oh, la meilleure chose !» Bon. On sort de là « Ah, j'espère que Dieu va nous bénir. » Là, c'est l'espérance. Suivez-moi bien. Ça fait partie. Ça fait partie de la combinaison. Mais la foi, à un moment donné, je sais que Dieu m'a déjà exaucé. Ça change tout. Le langage change, l'attitude change, le regard change, tout change. Et on se dit, mais, quand même, t'es avec nous là ou ça a été devenu mystique là? Non, non. Pour Anne, on aurait pu dire, oh, mais t'es folle ou quoi? T'es folle ou quoi? Non, non, non. Je le vois déjà. Est-ce que tu vois ce matin? Alors, je vais vous raconter un témoignage personnel à ce propos. On a parlé du CD tout à l'heure. Dieu m'avait dit depuis des années qu'on produirait avec le groupe de louanges de Montpellier, on produirait un CD. Mais les obstacles étaient énormes. Financiers, les personnes. Vous savez, j'avais une vision. Cette vision était claire dans mon esprit. Dieu voulait le faire. Il m'a appelé à ça et conduisait le groupe à le vivre. Mais les personnes qui me suivaient... Il ne le sentait pas, il ne le voyait pas, c'était une montagne, c'était terrible. Financièrement, je n'avais pas l'argent. Vous savez, c'est ces moments-là où tu as l'image et tu es devant la montagne, puis elle ne bouge pas. Tu sais. Les gens ne suivent pas, tout est difficile. Je dis, j'ai l'image, elle est claire. Alors, à des moments, je me suis énervé. Tu sais. Je voyais que ça ne bougeait pas. Mais je continuais, je me suis tenu. On a eu des défis énormes, je vous en raconte un. Déjà, convaincre le groupe de louanges d'y aller, on peut y arriver. Comme Dieu vient voir Gédéon et lui dit, vaillant héros, lui dit... Ah non, quand même, tu t'es trompé là. Ah, je crois que tu t'es planté. Mauvaise adresse. Non, c'est pas moi. Tu dis non. Moi, je te vois comme un vaillant héros. Je te vois comme un vaillant héros. Et Dieu met tout en place pour qu'il se mette à se voir comme un vaillant héros. Dieu veut nous restaurer. Dieu veut te restaurer. Il va marcher avec toi. Dieu aurait pu dire, comment? Moi, je te dis que t'es un vaillant héros, tu contestes. Oh, top. Non! Dieu le prend et il le conduit avec grâce. Il le conduit étape par étape jusqu'à ce que quelqu'un d'autre que lui fasse un songe. C'est quand même extraordinaire. Quelqu'un d'autre que lui voit qu'il est un vaillant héros. Il va dans le camp ennemi et puis il entend une discussion. Oh, j'ai vu Gédéon, il nous... Qu'est-ce qu'il nous mettait, Gédéon? Oh, Gédéon, il nous mettait. On était mal et tout. Tu sais, Gédéon écoute ça. Quelqu'un d'autre voit comme il est. Un vaillant héros, quelqu'un d'autre le voit. D'un coup, il se dit, ok, je vais quand même me mettre à le croire. Peut-être que c'est vrai. Et si c'était vrai que j'étais peut-être que je suis un vaillant héros. Je ne sais pas si vous me suivez là. Dieu s'est débrouillé pour dire, le rencontrer, il dit non, 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 tu t'es trompé. Puis il le chemine, il chemine, il chemine, jusqu'à ce qu'à un moment donné, oui, je suis, je le suis, je crois que je suis ce que Dieu dit que je suis. Il se met à le croire et il le devient. Et moi, j'avais mon image, ce CD, fixé sur toi. Alléluia. Et donc j'avais mes yeux fixés sur lui. Bon, elle était facile, ça. fixé sur. Vous savez, il me fallait 15 000 euros. Et on a organisé une conférence, on l'a voulu gratuite. Et 15 000 euros. Quand j'ai dit à l'équipe de ministère, vous savez quoi? La cible de notre foi, de ma foi, c'est qu'on va avoir 15 000 euros. C'est gratuit, les gens vont donner. On a eu 200 personnes en moyenne dans les réunions. Vous savez, 200 personnes, 15 000 euros, en plus des dîmes. Hein, parce que faut continuer à fonctionner. Vous savez, je vous passe les détails. On a eu 15 050 euros. La vision. La vision. C'était le plan de Dieu, je le voyais. Et on a travaillé, on a fléchi le genou, on a donné le meilleur de nous-mêmes. Sincèrement, c'est pas pour faire de la pub, je suis un peu gêné, c'est pas moi qui ai demandé à François de absolument dire de ça. Hein. Mais c'est l'aboutissement d'une vision, c'est ce que Dieu m'a donné, c'est l'héritage. Et le Seigneur montre d'autres choses et puis nous sommes en mouvement vers ça. On va sauter plusieurs diapos, parce que il faudrait qu'on ait un moment de prière. Hein, que vous le sachiez quand même, je citais le texte d'Habacuc 2, écrit la vision. Je vais quand même la lire. Voilà. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. C'est pour voir ce que l'Éternel me dirait. Ça vous est déjà arrivé de dire, est-ce que tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que est-ce que tu as une image de ce que je veux te dire? La foi vient de ce qu'on entend. Mais ce qu'on entend produit quoi? Une image. La foi vient de ce qu'on entend. Mais ce qu'on entend doit produire une image. Si tu vois maintenant, j'étais sur la tour pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. Alors je passe l'exégèse du texte, c'est un moment d'apostasie, ils sont déportés en Babylone, etc. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris ce que tu vois. Grave la vision sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une vision dont le terme est déjà fixé. Et souvent, vous savez, Dieu nous montre. La Bible nous dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le problème, c'est que l'homme n'y prend point garde. Le problème, c'est que nous ne prenons pas garde à ce que Dieu nous dit. Il parle, mais ça ne produit pas une image, et une image sur laquelle nous restons fixés, avec une assurance, une détermination. Ça, c'est la notion de persévérance, notre caractère qui persévère en gardant les yeux sur la vision. Et du coup, la vision est l'avorte. Ce que Dieu nous a montré n'arrive pas à son accomplissement parce que nous gardons pas les yeux dessus avec persévérance. Je ne lâcherai pas. Oh, si elle tarde, écoute. Dieu n'est jamais en retard. Je vous dis, Dieu n'est jamais en retard. Sauf que nous sommes impatients. Je suis impatient. Vous n'êtes pas impatient, vous? Je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que tu fais? Je vais prendre le mur, Seigneur. Qu'est-ce que tu fais? Il dit, hop, je suis pas pressé, moi. Je vais arriver à l'heure. Mais Seigneur, c'est long. Seigneur, jusqu'à quand, disait David? Jusqu'à quand? Il y a un moment, Seigneur, c'est long, c'est dur. Dépêche-toi. Mais toi, lâche pas. Si elle tarde, lâche pas. Jésus, quand on lui a dit, Lazare est mort, il a pris son temps. Seigneur, c'est long, 3 jours, c'est long. 4, c'est long. Et remarquez ce qu'il dit. On va aller réveiller Lazare. Lazare est mort. Regarde, quand Jésus voit Lazare déjà ressuscité, il ne dit pas qu'il est mort, il dit on va aller le réveiller. Il voit Lazare ressuscité. Il dit, ben écoute, on va le réveiller. Il ne dit pas, je vais aller le ressusciter. Vous me suivez là. Ça change tout. Il le voit ressuscité. Et il dit au Seigneur, bon Seigneur, montre-leur, va. Juste. Je sais que tu m'exauces toujours. Moi, je l'ai déjà vu. Montre-leur juste pour leur foi à eux. Pour leur faire du bien, tu sais. Elle s'accomplira. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Mais je te dis, elle s'accomplira certainement. Dieu dit, écoute, c'est sûr. Mais c'est sûr et c'est sûr. Mais c'est sûr. Ce que je te montre, ce que tu entends de moi, qui produit la foi et une vision, ça va s'accomplir. Donc, keep quiet. Reste calme. Et nous, on est agités. Oh. C'est un peu comme Saül. Samuel lui dit, oh, j'arrive, hein, je vais faire le sacrifice. Et il panique, hey, l'intimidation, ça y est, ils partent. Il n'attend pas, mais à ce moment-là, il perd tout. Il perd tout, la royauté, tout. Je dis, non, écoute, tu ne m'as pas honoré là. Tu n'as pas honoré ma parole. Tu n'as pas eu foi en moi. Dieu a dit, attends, tu attends. Oh oui, mais c'est dur, c'est dur. Ils s'en vont, c'est la catastrophe. Et puis là, dans la panique, au lieu d'obtenir ce que Dieu veut, eh bien, ça avorte, la vision et l'intention de Dieu avorte. Et il y a beaucoup de visions comme ça en panne. Mais Dieu dit, il ne se repent pas. Non, il ne se repent pas. Dieu est un Dieu de grâce. Hein. Alléluia. Il donne une seconde chance, mais une troisième, une quatrième. Sept fois, le juste tombe. Mais cette fois, il se relève. Oh, Dieu te redonne une chance. Je ne dis pas, oh, ça y est, donc ça veut dire que c'est cuit pour moi. Non, non, non. Comme pour Gédéon, le Seigneur prend le temps, étape après étape. Oh, jusqu'à ce que tu aies une vision claire. De toi-même et des circonstances changées. Mon juste, vous savez, si elle tarde, attends-la qu'elle s'accomplira certainement, ok? Mais souvent, on cite ce verset, mon juste vivra par sa foi, on le cite hors de son contexte. C'est juste après, écrit la vision. Est-ce que tu vois? Mon juste vivra par sa vision. Par la vision qui est claire. Est-ce qu'elle est claire, la vision? Est-ce qu'elle est claire au-dedans de ton esprit? Si tu n'as pas de vision, faute de vision, mon peuple y périt. Faute de vision, si tu ne vois pas. Mais tu es malheureux. Non, je vous dis la vérité. Celui qui ne voit pas est malheureux. Les disciples d'Emmaüs, et dans ce moment de louange, j'ai eu cette image des disciples d'Emmaüs. Ils étaient aveugles, ils ne voyaient pas. Ils étaient tristes parce qu'ils ne voyaient pas. Ils marchaient tout désolés. Jésus est mort alors qu'il est vivant. Tu sais, leurs yeux n'est pas... C'est Jésus qui les accompagne. Vous voyez la grâce de Dieu. Jésus les accompagne, puis ils sont là, oh, c'est triste. Et Dieu, oh, le malheureux, tu ne sais pas. Mais toi, mais d'où tu sors, toi? Tu ne sais pas qui... Tu sais pas qu'il y a une histoire terrible à Jérusalem. Mais tu sors d'où, toi? Tu dois venir, je sais pas, de Mars? Du ciel? Ben oui, je viens du ciel. Et ils marchent avec eux, ils sont tristes. Pourquoi? Ils n'ont pas de vision. Faute de vision, mon peuple, il est triste. Une église, un chrétien sans vision est triste, je vous dis. Triste. Faute de vision, mon peuple, il dépérit, il est triste. Mais Jésus, il chemine avec son peuple. Alléluia. Ceux qui sont tristes, il chemine avec eux. Et puis il leur parle. Toujours pareil, la foi vient de ce qu'on entend. Il parle. Oh, j'aurais aimé. Moi, qu'est-ce que j'aurais aimé entendre ce qu'il disait? Pas vous? Oh, Jésus qui parle, il parle. Et puis leur cœur, waouh! Oh, s'il continue, mon cœur va exploser. Oh, notre cœur, il brûle. Quand Jésus m'a parlé, mais avec grâce, il ne nous condamne pas, il dit, hey, relève-toi, je vais te donner une vision. Bam, d'un coup, il disparaît, puis d'un coup, il se dit, hey, mais c'est Jésus. Et ce matin, c'est exactement ce qu'il veut faire. Hey, celui qui chemine à côté de toi, si tu écoutes son cœur, et puis que tu vois une image se former dedans de toi, il va se révéler à toi, mais c'est Jésus. Tu vois, celui qui t'accompagne juste dans la tristesse, il veut te donner une vision. De lui, de son projet, de son intention, ce qu'il veut faire au travers de toi. Application. Alors, rapidement. Ouais, bon, tu nous parles de vision, tout ça, tu nous parles, machin. Bon, d'accord. Mais concrètement. Vivre par la foi dans les relations. Ça veut dire avec une vision selon Dieu des autres, sans préjugés. Alors, écoutez-moi bien. Vivre par la foi, c'est regarder ma sœur et ne pas la figer à la vision de l'aspect extérieur qu'elle me renvoie. Je ne vais pas la voir comme elle est là, dans la dimension humaine, je vais la voir comme elle, que Dieu me montre qu'elle est. Si j'ai relation avec elle, par la foi, avec une vision des choses invisibles, mon attitude, mon langage, ma manière d'être en relation, change. Du coup, je ne juge pas, je ne mets pas en prison, je ne condamne pas sur l'aspect physique. L'apparence, l'état actuel de la personne. Est-ce que vous me suivez là? Ça change tout. Ça change absolument tout parce que j'ai une vision. Je ne vois pas la personne, je ne m'arrête pas à la dimension juste humaine. J'ai une vision spirituelle de ce que... C'est comme Gédéon. Imaginez, quelqu'un d'autre à côté de lui se met à le regarder comme Dieu le voit. Puis deux, puis trois, puis quatre. Ben, je peux vous dire, ça aura pris moins de temps qu'il devienne comme Dieu le voit. Vous savez comment on se juge les uns les autres? Quand Jésus dit, ne jugez pas selon l'apparence. Ne jugez pas, ne vous arrêtez pas à l'image extérieure. L'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Et si nous regardons au cœur et que nous parlons à la personne, comme Dieu parle sur elle, comme Dieu la voit, mais ça change tout. On transforme, comme Dieu, pour Gédéon, on va faire la même chose, on va devenir des libérateurs de destinée. Des libérateurs de destinée. Je te vois comme Dieu te voit. Je parle avec toi, je me comporte avec toi comme Dieu te voit. Et ça change tout. Du coup, nous sommes en train de l'influencer, de l'impacter à cause de notre vision. Ma vision impacte les relations, les personnes avec qui je vis. Pourquoi je ne les vois pas dans leurs limites? Je ne les vois pas dans leurs complexes. Je les vois comme Dieu les voit. Et je parle avec eux. Je parle sur leur avenir, leur destinée. Je me comporte comme s'ils étaient déjà comme Dieu veut qu'ils soient. Vous ne trouvez pas que ça change tout? Imaginez que nous avons un regard, une parole, une attitude, comme Jésus, comme le Père, ferait. Mais écoutez, on se libérerait, il y aurait un potentiel extra, un géant qui se lèverait. Des Gédéons qui se lèveraient. Parce que dans l'église, il y a plein de complexés comme Gédéon. Des tas de complexés. Je ne vaux rien, je suis le plus petit, de la plus petite famille. Oh, toi, mais tu es rikiki, petit. Mais du coup, les gens à côté, pas que Dieu, mais les gens à côté, je te vois autrement. Oh non, t'es pas rikiki, non. T'es un vaillant héros commun. Ouais. Et puis l'autre qui dit la même chose, et puis l'autre qui dit la même chose, et puis l'autre qui dit la même chose. Peut-être au bout d'un moment, oh, vous allez réveiller des lions ici, là. Alors, pareil, attention à notre regard sur les enfants. Souvent, on minimise les enfants. On ne croit pas le potentiel qu'il y a en eux. Oh, mais les petits, soit comme les disciples. Mais attends, Jésus, quoi, t'allais bénir, quoi, ça sert à rien, tout ça. Non. Les mamans, allez, arrêtez un peu avec vos discours. Ça, non. Jésus dit, ne les méprisez pas. N'ayez pas un regard qui les méprise. Quand Samuel est venu oindre David, même le papa, ignore, méprise David. Ses frères méprisent David. Et Dieu dit, moi je regarde pas à l'apparence, je regarde au cœur. Il y a un regard de mépris, il faut qu'on fasse attention. Que nos enfants, on ne les regarde pas comme les petits riens. Mais des grands, Jésus. Avec un potentiel. Moi, je dis à mes enfants, vous allez aller loin. Je vois que vous allez aller loin. Ma fille, tu sais, ils ont des bonnes notes à l'école. Première à l'école. Tu vas aller loin. Tu vas aller loin. Tu as des grandes chances pour toi. Je veux voir et parler le langage de Dieu sur mes enfants. Amen. Dieu les voit grands. Dieu les voit accomplis. Dieu les voit en train d'avoir un impact. Alors, je parle ce langage sur eux. Ça change tout. Je peux vous dire, mes enfants, ils vont aller loin. Amen. Ben oui. Ils vont entrer dans le plein potentiel que Dieu a prévu dans leur vie. Je vous le dis pourquoi. Parce que Dieu le croit, mais je le crois. Il y en a au moins deux sur la corde des témoins. Alléluia. Vous êtes avec moi là? Ok. Alors, rapidement, même dans notre relation avec les futurs chrétiens. Moi, je ne dis plus les non-croyants. Je dis les futurs chrétiens. Ah, ça fait jeu de mots. Mais je peux vous garantir, ça fait une différence. Parce que je crois qu'ils vont devenir croyants. J'ai la vision qu'ils vont être transformés. Dans mes relations avec eux, souvent, on s'arrête aux apparences. Je peux vous dire, ce qui se passe dedans, on ne le voit pas. Et Dieu, je prie Dieu qu'il m'ouvre les yeux pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Moi, j'ai un couple, c'est le maire d'une ville à côté de Montpellier. Et elle est croyante, elle est chez nous. Et puis elle m'a dit, Rodrigue, j'aimerais que tu m'aides, mon mari, je prie pour lui, tout ça. Ok. Donc ça fait plusieurs rendez-vous qu'on a. Et puis on parle avec lui, on passe du temps. Puis il y a de l'impact. Moi, je suis très libre avec lui, j'ai de l'impact. Mais lui, comme un homme politique, ça fait 30 ans de rien ne se voit. Puis moi, je dis, oh là 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 là, tiens. Bon, ben, ça va être dur, ça va être long. Puis en fait, là, sa femme, une sorte d'espion pour moi. C'est comme, vous savez, les ennemis de Gédéon qui viennent me rapporter, oh, tu sais quoi? Qu'est-ce que tu lui as mis? Qu'est-ce que tu vas nous mettre? Viens me voir. Elle me dit, tu sais quoi? Il est touché, il est tourmenté, il n'endort pas la nuit, il est travaillé. Je dis, oh, alléluia! Mais moi, puisque mon regard s'arrête à ce que je vois, je suis là, oh Seigneur, c'est comme, les disciples des mages, oh c'est dur, peut-être d'un coup, puis j'ai mon espion qui arrive qui me dit, oh, alléluia. Donc en fait, il est touché, amen. Mais on va continuer, je vais proclamer, alléluia, c'est un futur chrétien, il va venir au milieu de nous, il va se convertir, alléluia, il va servir dans l'église clé. Vous me suivez la différence là? Envers les futurs chrétiens, ayant un regard de rédemption, ils sont déjà sauvés. J'ai envie de te dire, envers ton mari qui n'est pas converti, et le même langage, la même attitude. Envers ta femme, envers tes enfants, et le même regard. La foi, l'image. Elle ne se trouble pas, tu sais, c'est comme télévision, c'est pour... Non. Ok, tu sais, te laisse pas perturber, je garde la vision. Est-ce que tu vois? Si tu gardes la vision dessus, tu le verras s'accomplir. Alors, bon, je vais finir avec ça. Donne la dîme, les offrandes, les aumônes avec une vision. Vous savez, on peut donner de l'argent sans vision. Mais on peut donner de l'argent avec une vision. La Bible dit, celui qui sème peu, moissonne peu. Mais le moissonneur, quand il sème, il a une vision. Imaginez un moissonneur qui sème, il ne sait pas ce que ça va faire. Il a une vision qui va moissonner. Il faut voir l'accomplissement de ta semence. Il te faut voir. Moi, quand je donne ma dîme avec la vision. Vous savez quoi? Je plaisantais à l'église récemment. Je dis, vous savez quoi? Quand je donne ma dîme, je donne en plus un montant qui correspond à ma future augmentation. Alors l'église, je dis, vous pouvez rire, je le sais. Une vision. Si tu donnes sans vision, si tu sèmes et que tu ne vois pas, tu n'as pas une vision, ça n'a pas d'impact, comprenez-moi. Mais si tu vois, tu es en train d'attirer les choses de l'invisible à venir dans la réalité. Et hier, Raphaël s'est mis à prophétiser sur moi, il est en train de prophétiser mon augmentation. Moi, quand j'ai entendu ça, je dis, ouf, hallelujah, hallelujah. Dieu appelle les choses qui ne sont pas, mais comme si elles étaient. Parce qu'il les voit. Et quand elles viennent à la réalité, c'est juste parce qu'il les a vues. Alors, du coup, je vais, pour terminer, en termes de prière, je vais sauter. Ne résiste pas à la vision. Alors, je vais sauter pour vous citer un texte pour que c'est la deuxième partie de mon message, l'espérance. Pour que vous compreniez l'importance de ça. Dans Philippiens 4, 6, il est dit, ne vous inquiétez de rien. Mais faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Ok? Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Écoutez-moi. Souvent, ce qui se passe, c'est que, vous savez, dans la Bible, il est dit 365 fois, ne crains point. Un ne crains point pour chaque jour. C'est-à-dire, pour dire, garde ton cœur. Ne t'inquiète pas, prie. Mais maintenant, vivre par la foi, c'est l'étape suivante. Et la paix de Dieu, tu l'as fait par des prières, des supplications, des actions de grâce. L'enjeu majeur que nous avons, c'est de garder l'image. La paix de Dieu garde ton cœur et tes pensées. C'est ici que tout se joue. Dieu a entendu, on le lui a remis, mais l'enjeu, c'est que dans nos pensées, nous gardions la foi que Dieu s'en occupe. Vous savez, l'enjeu de la foi, c'est ce qui se passe au moment où on sort du moment de prière. Souvent, Dieu nous a exaucés et il nous a exaucés. Sauf que nos cœurs ne sont pas gardés. Le verset 8 dit quoi? Au reste, que tout ce qui est juste, pur, honorable, digne de louange, soit l'objet de quoi? De vos pensées. Écoutez, c'est une importance capitale ce que je suis en train de vous dire. Si dans tes pensées tu flanches, si dans tes pensées l'inquiétude vient, bien c'est une paralysie à l'exaucement de tes prières. Si dans tes pensées, tu ne nourris pas ta pensée de la vision de ce qu'est Dieu, de la vérité, vous savez, le diable va venir et dire, Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a dit, Dieu a promis, Dieu a accompli, tu as une assurance dedans de ton cœur, tu sors du moment de prière, et puis le diable vient et dit, Dieu a-t-il réellement dit? Et Dieu dit, que tout ce qui est vrai soit l'objet de tes pensées. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'enjeu. Est-ce que je cède au mensonge de l'ennemi, le père du mensonge? Eh, vous me suivez là? Le père du mensonge vient, il te confronte. Est-ce que je cède à la tentation de croire au mensonge ou je garde mes pensées rivées sur ce qui est vrai? Oula, je vous ai perdu ou quoi? Ah, je suis rassuré. L'enjeu est là, le combat spirituel, il est là. C'est pas je chasse. Non! Garde, que la paix de Dieu qui supporte toute intelligence, garde tes pensées en Jésus-Christ, en lui. Et au reste, le secret, il donne le secret. Au reste, tu veux garder la bénédiction, tu veux voir l'accomplissement, que tes pensées soient gardées. L'objet de tes pensées, exerce-toi, arme ta pensée. À la pensée de souffrir, dit Pierre, mais aussi la vérité, le vrai, le honorable, digne de louange. Si les chrétiens, écoutez-moi bien, si les chrétiens faisaient de toutes ces choses l'objet de leur pensée, mais c'est la révolution. C'est une révolution. Pourquoi? Parce que la vision qu'ils voient, ils le focus dans leur pensée. Et là, c'est la clé qui ouvre la voie de la porte du ciel, de la bénédiction, de la puissance de Dieu, de la réconciliation. Tous les domaines de nos vies ainsi sont concernés. Tout. On peut vivre par la foi dans tous les domaines. Le couple, la famille, les relations, même le pardon. Pour être libéré du pardon. Tu sais, le non-pardon, l'amertume qui est là. Je ne peux pas pardonner. Tu sais quoi? Et une vision. Et la pensée. Le renouvellement de ta pensée qui te rend capable de dire, je peux le faire. Je focus avec la capacité. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je focus mes pensées là-dessus. La réalité rejoindra ce que tu vois dans ton esprit. Alléluia. Alléluia. Ok. Je vais terminer là. On va prier. Vous savez, la foi n'est pas une question de sentiment. Nous ne marchons pas, nous ne vivons pas par la vue, mais par la foi. Il ne faut pas chercher à aider la foi par une ambiance ou je ne sais quoi. Ce n'est pas sentimental, c'est spirituel. Tes yeux sont ouverts, ils ne le sont pas. Et Jésus dit à l'église de la Laodicée, écoute, tu te crois riche, tu te crois habillé, tu crois que tu as les yeux ouverts, mais en vérité, tu es aveugle, tu es nu. Alors attention, hein, je ne suis pas en train de dire ça de vous comme ça, je dis juste, cette église ne voyait pas. Et Jésus dit, viens à moi, et on va faire ça ce matin, viens à moi pour que je te donne un collier pour que tu vois. Et Dieu veut nous ouvrir les yeux ce matin. Dieu veut nous ouvrir les yeux ce matin. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Tu as dit Seigneur que ton juste vivra par sa foi, par sa vision, par ce qu'il voit. Je te prie que tu renouvelles la vie de chacun de tes enfants en donnant un divin collier pour voir. Pour voir, pour te voir, pour voir l'espérance qui s'attache à son appel. Seigneur, pour voir, nous voulons nous réjouir en espérance, en capacité de voir ce qui nous attend dans les cieux, ce qui nous attend demain, parce que tu nous ouvres les yeux. Je prie que les yeux soient ouverts. Seigneur, c'est en humilité que je te demande que ton esprit vienne illuminer les yeux de notre cœur. Nous voulons te voir. Comme Moïse a dit, fais-nous voir ta gloire. Ouvre nos yeux sur les réalités spirituelles. Et je te prie que chacun des défis, chacune des montagnes, des moments de tristesse, de découragement, tu t'approches et tu parles à chacun, comme tu as parlé aux disciples d'Emmaüs, jusqu'à ce que leur cœur explose et que leurs yeux s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Dieu de grâce, comme tu t'es approché de Gédéon, approche-toi de chacun et parle, Seigneur, sur eux comme tu les vois. Et je te prie que chacun entre dans ce processus et accepte d'être accompagné de toi, d'être coaché par toi jusqu'à croire ce que tu dis d'eux, ce que tu dis que tu veux faire au travers d'eux. Ô Seigneur, je te prie vraiment que cette nouvelle dimension où tu conduis l'église de Montauban ici, Seigneur, il y a un cap qui soit passé pour chacun, avec une vraie vision de ce que tu veux faire au travers de cette église. Je sais que, Seigneur, c'est une ville sur une montagne. C'est toi-même qui les conduis, Seigneur, dans un esprit de résurrection et de vie, comme tu l'as montré à Raphaël et à l'équipe de responsables. Merci pour ton œuvre. Nous croyons que rien ne résistera à la vision que tu leur as donnée. Je veux prier, Seigneur, que ceux qui résistent à la vision, ceux qui sont dans la résistance, cessent leur résistance. Comme Paul a dit, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Je prie, Seigneur, que plusieurs de ceux qui sont dans la résistance sortent de leur résistance. Seigneur, pour qu'une armée puissante, avec une vraie vision, se lève, Seigneur, dans cette ville et dans cette région. Je crois, tu suscites une armée puissante. Toi qui souffles, Seigneur, sur les eaux, Seigneur, et qui lève une armée puissante, tu le fais, je le crois, que plusieurs qui ont connu la mort, que ceux qui ont connu, Seigneur, la désespérance, qui ont connu les échecs, qui ont connu la douleur. Seigneur, toi-même, tu souffles des quatre vents. Tu suscites une vision, comme tu en montres à Ézéchiel, de voir une armée puissante qui se lève pour toi. Dans, Seigneur, cette église, dans ce temps, je crois que c'est là, tu sonnes la trompette, ton esprit souffle des quatre vents. Et je loue ton nom pour tes projets. Alléluia, je loue ton nom pour ton intention et l'accomplissement de ta volonté. Ici, maintenant, au nom de Jésus-Christ. Ô Seigneur, que l'image soit claire. Je prie dans nos vies personnelles, dans nos vies de couple, de famille, dans nos projets, nos entreprises, dans notre travail, dans nos relations, dans nos groupes de maison. Seigneur, que la vision de là où tu nous mènes soit claire, au nom de Jésus-Christ. Suscite une vision commune, au nom de Jésus. Que ta puissance et le souffle de Dieu soient là au milieu de nous. Alléluia. Oh, j'ai dit alléluia. 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 Viens, Saint-Esprit, maintenant. Viens, Saint-Esprit. Levez-vous même vers le Seigneur comme ça. J'ai déjà écart, alors je ne veux pas le souffle de Dieu. J'ai cette vision d'Ézéchiel, le souffle de Dieu. Il y en a plusieurs qui ont été arrêtés, piégés, paralysés par la souffrance, la douleur, l'échec. Le souffle vient maintenant au nom de Jésus. Il n'y a pas de situation plus désespérée que la mort. Tu as pu vivre ça. Même des décès, des choses douloureuses. Et le Seigneur veut souffler, comme dans la vision d'Ézéchiel. Souffle, viens des quatre vents, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Seigneur, comme Ézéchiel, nous-mêmes nous disons, toi seul tu le sais. Seigneur, ces mots peuvent revivre, nous disons, toi seul tu le sais. Mais Seigneur, oui, tu nous demandes de prophétiser. Ce matin, je prophétise. Esprit, viens des quatre vents. Ramène la vie là où il y a eu la marque de la mort. Comme Jésus a dit, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Je prie qu'il y ait un esprit de résurrection sur les visions anciennes. Nous sommes là, nous nous levons et nous croyons que nous allons voir l'accomplissement. Au nom de Jésus, nous croyons que nous allons voir l'accomplissement de ce que tu as parlé sur cette église. Oui, de sa vocation, de son impact, de son influence, de son autorité. Oui, nous croyons que cela s'accomplira et s'accomplira certainement. Au nom de Jésus. Ô Seigneur, ta parole ne revient pas à toi sans effet. Et nous croyons que cela s'accomplira. Et je prie cela dans tous les domaines, dans toutes les dimensions de la vie de l'Église ici. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.